Nous allons prendre nos Bibles et regarder ensemble aujourd'hui dans Jean chapitre 21, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Nous sommes dans cette partie de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre après sa résurrection et les jours précédents. Le temps qu'il est monté au ciel et il est en train de rassembler ses disciples, se présenter à ses disciples et se révéler à eux dans le livre des Actes, le chapitre 1. C'est écrit que pendant 40 jours, il s'est présenté à des témoins particuliers, ce n'était pas tout le monde, comme l'évangile n'est pas pour tous les hommes. Il y en a qui imaginent qu'il faut absolument essayer d'aller partout et prêcher à tous, parce que si nous n'annonçons pas Christ à tous les êtres humains, chaque fois que quelqu'un passe, alors le sang est sur nous. Mais ce n'est pas comme ça, même que notre Seigneur Jésus-Christ a agi lui-même dans sa prière sacerdotale dans Jean 17. Il a dit que ce n'est pas pour le monde qu'il prie, mais pour ceux que le Père lui a donnés. Donc nous avons ici en évidence certains de ceux que le Père lui a donnés parmi ses disciples. Alors parfois, c'était à un de ses disciples, parfois c'était l'ensemble des disciples. Et comme Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, une fois à 500 à la fois. Nous ne savons pas exactement comment ça s'est passé, mais le Seigneur Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Et surtout que ses disciples devaient maintenant prendre le message de Christ et aller annoncer ça dans le monde à ceux à qui le Seigneur les dirigeait. Nous avons ici maintenant les derniers enseignements que le Seigneur Jésus est en train de donner à ses disciples qui devaient communiquer ce message. Et ici, nous avons vu les disciples à la pêche. C'était des hommes de pêche. C'était leur métier avant que le Seigneur ne les appelle. Et en attendant que le Seigneur se révèle davantage en eux pour leur donner davantage des instructions, ils étaient en quelque sorte à la loisir ici, aller faire la pêche, peut-être pour leurs besoins personnels, ou bien pour aussi faire la pêche et vendre ce qu'ils attrapaient. Donc, ils ont passé la nuit et le verset 3 nous dit qu'ils n'ont rien pris. C'est ainsi que le Seigneur Jésus apparaît. Le matin, verset 4, étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Peut-être que c'était du fait qu'ils étaient un peu à une distance de lui. Peut-être que leurs yeux étaient à ce moment-là fermés. Nous savons que nous ne pouvons pas connaître Christ ou voir qu'il est dans toute sa gloire tant que Christ lui-même, par son esprit, ne se révèle en nous. Mais encore verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Et ils lui répondirent non. Je me demande à ce moment-là si déjà la voix du Seigneur Jésus-Christ et le fait de les appeler enfants ne devait pas dire quelque chose dans leur esprit du fait que cela ressemblait à la voix de celui qu'ils connaissaient comme le Seigneur Jésus. Je sais que nous arrivons à distinguer la voix de beaucoup qui professent parler au nom de Jésus, mais la voix ne ressemble pas à celui qui est écrit ici dans les Écritures. Et lorsque nous entendons des gens en train de parler du Christ et nous comparons avec ce que dit la Bible, si nous avons l'Esprit du Christ en nous, alors la manière de parler, la manière de décrire le Seigneur Jésus, ce n'est pas une voix audible, mais nous arrivons à entendre la voix du Christ à travers les Écritures. Et il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Comment est-ce que Christ pouvait dire cela avec toute assurance? C'est parce qu'il est Dieu. Dieu dans la chair. Il n'y a rien qui n'échappe à sa direction et son pouvoir. Même les poissons. Imaginez, un homme ne pouvait jamais parler aux poissons ou diriger des poissons dans un filet. C'est pourquoi parfois on jette le filet et puis on n'attrape rien. Les poissons se dispersent. Mais quel pouvoir, si ce n'est celui qui a créé toute chose, qui est depuis le commencement, qui par sa parole a dit dans le livre de Genèse que les poissons soient, et les mers étaient remplies alors des poissons. Donc il se manifeste ici, quoique en regardant de l'extérieur, il ressemblait à un homme, comme tout autre, mais il n'était pas un simple homme, il est le Dieu homme. Et voilà la preuve. Quand il dit « jetez le filet du côté droit de la barque, et peut-être vous trouverez », ce n'est pas ce qui est écrit, « vous trouverez ». Si Christ annonce quelque chose, il dirige sa parole comme il veut, et cette parole réussit chaque fois. Sa parole, si lui y donne la parole, c'est pourquoi il pouvait guérir les malades et leur dire de se lever et marcher, ceux qui ne marchaient pas auparavant. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Et la même chose en ce qui concerne le salut des pécheurs. Lorsqu'il annonce qu'un tel pécheur entendra la parole qui est prêchée, alors celui-là ou celle-là doit entendre. C'est le Seigneur qui ouvre les oreilles, qui donne les yeux pour voir. Cela ne dépend pas de nous, les prédicateurs, mais ça dépend de lui. Vous trouverez. Ils le jetèrent donc, le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. C'est ainsi, peut-être qu'avec la voix de Jésus dans le verset 5, leur disant, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Mais ayant vu maintenant le miracle qui s'est produit et le nombre de poissons, la grande quantité, vous savez que c'est comme ça, Christ agit. Parfois, en prêchant l'évangile, il y a peut-être un grand nombre qu'il fait croire, il leur donne la foi de croire, comme au jour de Pentecôte. Mais d'autres fois, peut-être un seul. Peu importe, c'est selon l'ordre du Seigneur. Cette fois-ci, une grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, nous avons vu déjà le sens de cela, ce n'est pas qu'il aimait seulement Jean, parce que c'est une manière de parler que Jean utilise ici, mais il parle de sa propre expérience, comme je peux peut-être dire, la manière que le Seigneur m'aime, cela n'exclut pas d'autres qu'il aime, mais il est en train de rendre ce témoignage lui-même. Ce disciple que Jésus aimait, l'apôtre Jean n'était pas au-dessus des autres disciples, comme s'il était plus spirituel, non. Mais lui-même, il reconnaissait cette grâce d'être aimé du Seigneur Jésus. Alors, c'est lui qui a dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Lorsque le Seigneur fait entendre sa voix et il manifeste sa puissance à travers son œuvre, cela produit dans ceux qu'il est venu chercher et sauver cette exclamation, c'est le Seigneur, il n'y a pas d'autre. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu et il se jeta dans la mer. Il avait fait ça auparavant, le Seigneur l'a fait marcher sur la mer. Et cette fois-ci, encore, le fait d'entendre la voix du Christ et voir que c'était lui, c'est ainsi qu'il a couru vers le Seigneur. C'est toujours l'effet de la grâce de Dieu d'aller vers le Seigneur qui est digne de toute gloire. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons. Et notez, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Environ 200 mètres, disons, un peu moins. Et lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Encore un exemple du fait que le Seigneur n'a pas besoin de ce que nous amenons. Les voilà, ils avaient déjà fait la pêche et il y avait une grande quantité de poissons. Mais en ce qui concerne la manière que Christ devait nourrir ses disciples, tout était déjà préparé. Je vois ça comme un exemple de la plénitude de l'Évangile. Lorsque nous venons à Christ, plutôt nous sommes attirés à Christ, nous trouvons tout ce qu'il nous faut déjà préparé. Ça, ce n'est pas un Seigneur qui a besoin des œuvres des hommes ou bien de ce que l'homme peut préparer pour lui. Non, nous avons besoin de lui. Ils avaient déjà fait la pêche toute la nuit et certainement étaient fatigués et avaient la faim. Mais lorsqu'ils sont venus maintenant à terre, ils sont descendus à terre, ils ont trouvé Christ était là, ainsi que tout ce qui était nécessaire déjà préparé. Alors Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre, pas parce que Christ en avait besoin, mais qu'il allait leur montrer combien était la grandeur de cette œuvre de grâce qu'il avait faite pour eux. Alors Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de, c'est écrit, 153 grands poissons. Un tel nombre de poissons devait rompre le filet, mais voilà deux miracles. Non seulement 153 grands poissons, et deuxièmement, le fait que le filet, c'est écrit, ne se rompit point. Cela nous montre encore que ce que Christ fait doit réussir en toute chose. Rien ne peut faire faillite ce que Christ lui-même a ordonné. Alors, c'est ainsi que Jésus leur dit, encore, il leur dit de faire venir les poissons pour qu'ils voient et ils regardent la grandeur de son œuvre à leur égard. Alors Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Souvent, quand le Seigneur manifeste sa grâce envers nous, en nous faisant sortir peut-être même d'une situation difficile, ou bien lui-même en s'approchant de nous, nos lèvres sont fermées, nos bouches sont fermées, en contemplant la grandeur et la gloire de ce Seigneur Jésus. Vous ne voyez pas la différence entre celui qui est représenté ici dans la parole et le petit Jésus que les gens annoncent que oui, il veut bien vous délivrer, mais il faut que vous l'aidiez. Il faut que vous fassiez d'abord le premier pas et puis ensuite, il fera ce qu'il doit faire. Ça, ce n'est pas le Christ de la Bible. Ça, c'est un Jésus idolâtre dans l'imagination des hommes, mais pas le Christ de la Bible. Alors, Jésus s'approcha. Donc, ils ont dit, ils n'osaient même pas demander qui est-il. Ils n'avaient pas besoin de demander. C'est comme pour nous, lorsque nous entendons la voix de Christ à travers sa parole, nous n'avons pas besoin de demander, mais qui est celui-là? Parce que l'Esprit de Christ l'a déjà révélé en nous, sachant que c'était le Seigneur. Ça, c'est une phrase très forte là, sachant. Notre foi n'est pas basée sur des spéculations ou bien les dires des gens. Non, c'est une persuasion que l'Esprit donne. Nous savons en qui nous avons cru. C'est ce que Paul a dit. Je sais, sachant que c'était le Seigneur, et pas un autre. C'est pourquoi nous ne sommes pas tirés de droite à gauche par d'autres soi-disant Jésus qui sont prêchés. Non, nous restons fermes sur ce Jésus. Le Seigneur, notez que c'était le Seigneur, il n'y a pas d'autre. Les gens ont un Jésus aujourd'hui qui n'est pas souverain. Il veut bien exercer sa volonté, mais il ne peut pas tant que l'homme ne lui donne la permission. Ça, ce n'est pas le Seigneur, sachant que c'était le Seigneur. Voilà la différence. Celui qui est le vrai. Alors Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna et il fit de même du poisson. Qu'est-ce que vous regardez là dans le verset 13? C'est que c'est Christ qui est toujours celui qui initie chaque chose pour leur bien. Jésus s'approcha, aucun ne pouvait jamais connaître Christ si ce n'était pas lui-même qui d'abord s'approchait, prit le pain. Lui qui est le pain de vie, il prend maintenant le pain et leur en donna. Il y a aujourd'hui ceux qui croient que c'est Christ qui tend sa main avec ce qu'il nous faut dans le salut, mais tant que nous-mêmes, nous n'acceptons pas, alors il ne peut pas nous donner le salut. Ça, ce n'est pas ce que nous lisons ici. Tout est selon l'ordre du Seigneur. C'est lui qui prend le pain, lui qui est le pain, et le en donna. Et il fit de même du poisson. Quand vous avez faim, et celui qui vous donne le pain vous tend la main pour recevoir ce pain, vous allez prendre le pain, parce que c'est la faim qui vous pousse à prendre et vouloir manger. C'est comme ça spirituellement. Si les gens ne croient pas en Christ, c'est qu'ils n'ont pas faim. C'est parce qu'ils sont encore morts spirituellement. Quelqu'un qui est mort n'a pas faim, mais quelqu'un qui est vivant a faim. Et lorsque le pain lui est donné, c'est ça le mot-clé dans le verset 13, « et leur en donna ». Ça ne dit pas simplement qu'il leur en a offert. Non, il leur en a donné. Le salut est un don de Dieu. Et le don, c'est Christ lui-même, le pain de vie. C'est ainsi qu'ils ont pris et ils ont mangé. C'est pourquoi Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai. Voilà encore le mot, donnerai. C'est pourquoi nous sommes sauvés par ce que Christ donne. Il a donné sa vie comme rançon. Et donc, il doit nécessairement avoir chacun pour qui il a donné sa vie. Alors, c'est écrit dans le verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Pourquoi cette répétition? C'est parce que Nous sommes des pécheurs dans le besoin. Nous avons besoin chaque fois d'une nouvelle révélation de Christ et d'apprendre de lui. Donc, c'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Donc, tout cela étant passé, nous lisons dans le verset 15, « Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, et voilà la question. Et ça, c'est le point clé maintenant de cette étude. Il posait à Simon-Pierre une question très importante, disant, « M'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci ?» Alors, une question qui devait aller au fond du cœur de quelqu'un qui appartient au Seigneur, parce que nous savons que nous ne pouvons pas l'aimer comme il nous aime. Nous l'aimons, Jean dit dans son épître, 1 Jean chapitre 4, verset 10 et 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Simon-Pierre savait déjà l'amour de Christ pour lui. C'est pourquoi je disais tout à l'heure dans le verset 7, lorsque le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, Jean était en train de déjà exprimer être l'objet de l'amour de Jésus. Et il l'exprimait de cette manière. Mais maintenant, la question tourne sur Pierre. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il lui répondit. Je ne pense pas qu'il a répondu d'une manière orgueilleuse. Ah oui! Comme beaucoup aujourd'hui, quand ils parlent de leur amour pour Jésus, alors ils font ça d'une manière orgueilleuse, disant non, mais j'aime Jésus. C'est écrit simplement, il lui répondit. Ce n'est pas une exclamation, ce n'était pas pour que les autres entendent, mais en s'adressant à son Seigneur, il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il est en train d'affirmer que si le Seigneur lui-même ne l'aimait pas, alors il ne pouvait jamais aimer le Seigneur en retour. Donc, quand il dit « Tu sais que je t'aime », il est en train de donner la gloire au Seigneur qui sait toutes choses. Il connaît ceux qui lui appartiennent et ceux en qui il a mis son esprit pour le connaître et même de l'aimer. Alors, Jésus lui dit « Paix, mes agneaux. Il est en train de préparer Pierre pour cette grande tâche, une fois que Christ est monté au ciel, d'aller maintenant et prêcher Christ. Et de paître, notez, ses agneaux. Christ n'est pas venu pour les boucs. Ici, il s'agit de ceux que le Père lui a donnés, qui sont décrits comme des brebis, des agneaux. Donc, il dit simplement la manière de manifester l'amour pour Christ et de paisser les agneaux, de traiter ceux que le Seigneur Jésus est venu rançonner par son sang, les traiter avec tendresse en leur annonçant. La manière de paître les agneaux, c'est de leur annoncer Christ. Comme je fais maintenant, qu'est-ce qui manifeste mon amour pour Christ? Il y en a qui sont des prédicateurs, ils disent qu'ils aiment Christ, mais ils ne le prêchent presque jamais, parce qu'on ne peut pas prêcher celui qu'on ne connaît pas. Donc voilà, ceux qui viennent pour les écouter, et au lieu d'annoncer Christ, ils sont en train de toucher toutes sortes de sujets, ceux-là n'aiment pas Christ. Si nous aimons quelqu'un d'un amour pur, nous allons parler de cela. Et dans ce cas, d'annoncer Christ. Mais si Pierre pensait que, et c'est une question difficile, ceux qui sont, appartiennent au Seigneur, ne trouvent pas facile nécessairement de dire cela, oui, je l'aime, oui, je t'aime, parce que nous connaissons notre cœur, et nous savons jusqu'à tel point nous sommes des pécheurs, mais c'est l'amour de Christ pour nous qui nous pousse maintenant, et son esprit en nous, qui nous donne cet amour en retour. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Il ne faut jamais renverser cet ordre. D'abord, son amour pour nous, ainsi notre amour pour lui. Son amour est parfait. Mais notre amour n'est pas parfait. Et ce n'est que lorsque le Seigneur Jésus encore s'approche de nous et se révèle davantage en nous que nous nous réjouissons davantage en lui et nous contemplons que s'il y a de l'amour en nous, c'est lui-même qui nous a donné cet amour. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais même que tel amour qui est en moi vient de toi. Mais c'est répété encore une deuxième fois ici dans le verset 16. Et il lui dit une seconde fois, mais cette fois-ci, sans la question, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci, en regardant peut-être autour de lui. Ici, simplement, m'aimes-tu? Et Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est un mot différent que paie mes agneaux. Les agneaux sont les petits brebis. Mais ici, que ça soit petit ou grand, s'ils appartiennent au Seigneur, donc nous devons les paître exactement quel que soit leur état. C'est pourquoi lorsque nous annonçons Christ aux hommes, il y en a qui sont considérés comme plus jeunes peut-être dans le Seigneur et d'autres plus mûrs, mais il n'y a pas un message à part pour les petits et puis un autre pour les grands. Non, c'est le même message du Christ et Christ crucifié. Et c'est ainsi que nous devons paître, que ce soit les agneaux, que ce soit les brebis. Alors, la même question posée à Pierre, m'aimes-tu? Mais maintenant, dans le verset 17, nous voyons la troisième fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et cette fois-ci, c'est écrit, Pierre fut attristé. Christ ne répète pas ses paroles en vain. Il y a une raison pour laquelle c'était trois fois qu'il posait cette question. Et il ne faut pas comprendre ça dans le sens que Pierre fut irrité. Non. Mais attristé. Ça, c'est une œuvre de grâce dans son cœur. Parce que chaque fois que la parole du Seigneur vient dans sa puissance et sa grâce, et il est révélé davantage dans le cœur, ça nous amène toujours à la repentance. C'est-à-dire de regarder de nouveau vers Christ et d'être attristé à cause de notre péché et pas même notre manque d'amour pour Christ. Mais heureusement, Dieu ne nous juge pas basé sur le degré de notre amour. C'est l'amour de Christ pour nous qui nous sauve. C'est son œuvre pour nous qui sauve. Mais Christ doit toujours nous rappeler de cela. Que si nous sommes acceptés devant Dieu, ce n'est pas basé sur notre justice, mais sur la justice qu'il est venu accomplir à l'égard des pécheurs comme nous. Alors, cette troisième fois, en posant la question, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Qu'est-ce que je vais dire, Seigneur, que tu ne connais pas déjà? Tu vois le cœur. Tu me vois dans toutes mes faiblesses. Mais même en tout cela, à cause de ton amour pour moi et le fait que tu ne me relâches jamais, tu ne me laisses jamais. Quel berger qui va laisser partir une de ses brebis? Il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, cette troisième fois, paix mes brebis. Il y a une raison pour laquelle que Christ a posé cette question trois fois. Parce que si on regarde en arrière à l'histoire de Pierre qui avait d'abord dit partout où Christ allait, il allait suivre. Et puis, Christ lui a dit, Pierre, tu ne sais même pas ce que tu dis. La nuit de son jugement, avant même que le coq chante, tu me nieras trois fois. Et c'est intéressant que maintenant, et même en cela, Christ n'a pas renoncé à Pierre. C'était que quand il est sorti du lieu du jugement, il suffisait simplement de regarder à Pierre. Il n'a même pas dû dire quelque chose à Pierre et Pierre pleurait, tombé en larmes. Ouais, encore ça, c'est le Seigneur par son esprit qui communique avec les siens sans même dire un mot. Et quand nous voyons ici, nous trouvons le Seigneur face à Pierre dans presque la même situation où Pierre avait nié le Seigneur auparavant. C'était autour d'un feu où il se chauffait. Ici, nous avons le feu qui était préparé par le Seigneur, les charbons allumés dans le verset 9. Et c'était aussi trois fois que Pierre auparavant avait nié le Seigneur Jésus. Donc, est-ce que vous ne voyez pas maintenant la connexion entre les trois fois que le Seigneur Jésus lui a posé cette question? Quoique Pierre avait dit auparavant qu'il ne serait pas, qu'il ne serait jamais offensé par le Seigneur. Alors, si il est tombé, et il faut dire que nous chutons parce que nous sommes déjà tombés en Adam, nous sommes des pécheurs de nature. Donc, trois fois le Seigneur lui a posé la question. Et je dois dire trois fois, le Seigneur lui a donné la bonne réponse. Il n'a pas dit, non Seigneur, tu sais comment je t'avais nié auparavant, comment est-ce que je peux dire que je t'aime? Non, c'est la grâce de Dieu en réfléchissant, sachant que, quoique je suis tombé trois fois en niant le Seigneur, mais c'est lui qui m'a gardé. Pourquoi ne pas dire alors, si je suis encore ici, face à mon Seigneur, que c'est sa grâce. Comment est-ce que je ne peux pas l'aimer? Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui pousse une telle confession. Comme je disais, il ne disait pas cela avec orgueil, mais je crois avec une certaine modestie et humilité, sachant sa nature, et nous savons ça toujours. Nous voulons dire au Seigneur que nous l'aimons, mais ce n'est pas dans l'orgueil, ce n'est pas dans un esprit hautain que nous disons cela, mais dans l'humilité, sachant que si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous a aimés le premier. Alors tout cela, c'était afin de préparer Pierre d'aller maintenant et prêcher aux autres cette grâce que le Seigneur lui avait faite. Et je dois dire que si, encore des gens ne prêchent pas Christ aujourd'hui, ou bien il y en a qui, peut-être qu'ils ont certaines doctrines correctes au sujet de Christ, mais n'ayant jamais eu le Christ révélé en eux, de cette grâce révélée dans le cœur. Donc, c'est tout ce que c'est des enseignements qu'ils donnent, mais ne connaissaient pas réellement le Christ. Si quelqu'un est fidèle d'annoncer Christ et de prêcher Christ, c'est à cause d'abord de l'amour de Christ à son égard, mais aussi à cause de la grâce de Dieu en lui qui le pousse maintenant à déclarer son amour pour Christ. Et nous savons que c'est un tel message que Dieu honore. Quand je m'assois pour préparer des messages, ce n'est pas simplement de préparer un sermon. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot, un sermon. Ça, c'est un message avec des ébauches, on doit s'asseoir et mettre tout en ordre. C'est vrai, quand nous prêchons, on doit avoir un ordre, mais mieux vaut ne pas avoir des points clés et simplement prêcher cette parole exactement comme c'est écrit. De paître les agneaux. Ça aussi, c'est pour nous rappeler que ce message n'est pas pour tous les hommes, mais il y en a. Je suis certain que si le Seigneur suscite un prédicateur pour prêcher Christ, quoi que la plupart ne vont pas croire, mais il y a des agneaux, il y a les brebis que Dieu a déjà choisis et qui doivent entendre, comme Christ a dit, et qu'il doit les emmener. C'est tout cela qui nous pousse à aimer Christ davantage, parce que nous prêchons sa gloire, nous prêchons son œuvre accomplie pour la justification des pécheurs. Et c'est ainsi que nous démontrons notre amour envers lui. C'est cet amour de Christ en nous qui nous motive alors de prêcher aux autres. Une dernière référence dans 2 Corinthiens. Chapitre 5 et du verset 9 jusqu'au verset 15. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 9. Il dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est-à-dire, autant que nous avons vie, que le Seigneur nous donne cette vie. Notre désir, c'est écrit, nous nous efforçons, et certains diront, oh, mais on ne peut pas dire de s'efforcer. Donc ça, c'est la grâce de Dieu en nous qui nous pousse de lui être agréable, c'est-à-dire de vivre d'une manière qui lui rend la gloire, dont il est digne. Verset 10 dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Mais là, ce n'est pas pour être jugé, parce que le jugement a déjà été accompli dans sa mort, mais néanmoins, nous allons nous comparaître tous devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien et le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Il y a beaucoup qui interprètent mal ce passage, disant que oui, mais même si Christ est mort pour nous, il y a encore des péchés et autres choses dont nous devons rendre compte. Ça, ce n'est pas dans ce sens qu'il parle. Quand il dit afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, ce que nous allons recevoir selon le bien ou le mal, quelle que soit notre manière de marcher, qu'est-ce que nous allons recevoir? Nous allons recevoir la justice de Dieu en Christ, le pardon, rien ne change. Et avec cette réflexion de se tenir devant Dieu un jour et d'entendre Dieu dire à travers Christ, entrer dans le royaume qui a été préparé pour vous. Cette pensée doit motiver nos vies de la manière que nous vivons ici-bas, sachant que nous ne serons jamais condamnés. Mais nous ne prenons pas ça à la légère. C'est écrit, connaissant donc la crainte du Seigneur, la crainte dans ce sens, en lui donnant toute cette révérence. Nous cherchons à convaincre les hommes et de dire aux hommes qu'il n'y a pas d'espoir à part l'œuvre de Christ. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent droit de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu, et si je suis de bon sens, c'est pour vous. Et voilà le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse. Ça, ce n'est pas quelque chose que nous devons nous forcer à avoir. Non, c'est l'amour de Christ d'abord pour nous et en nous qui nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. C'est-à-dire, tous ceux pour qui il est mort, ils sont morts légalement quand Christ est mort. Donc, il n'y a plus de condamnation. C'est ça qui nous pousse maintenant à aimer Christ, exactement comme Pierre. Qu'est-ce qu'il pouvait dire? Son acceptation devant Christ était basée d'abord sur l'amour de Christ pour lui. C'est pourquoi il savait que Seigneur, tu connais toutes choses. Et qu'il est mort pour tous, quand c'est écrit pour tous, c'est pour tout genre de pécheurs. Ce n'est pas tout les êtres humains, autrement tous seraient sauvés. Mais il est mort pour tous, juifs comme gentils, riches comme pauvres, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà la base encore, ça revient toujours à la croix. Pourquoi est-ce que je suis aujourd'hui au Seigneur? C'est grâce à son amour pour moi, mais comment est-ce que j'exprime cette grâce et ce don du salut, c'est en l'annonçant aux autres et en disant aux autres combien il a accompli pour un pécheur comme moi. Et c'est ainsi que je manifeste alors mon amour pour lui. C'est pourquoi Christ dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux, paie les brebis. Alors que le Seigneur tire la gloire en tout ce que nous lisons et nous entendons, et toute la gloire revient à lui seul. Amen.